Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Première Loge. J'ai failli oublier le nom du podcast, c'était mal ça. Bref, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Première Loge spécial série éliminatoire dans l'extérieur de hockey où on revient sur les matchs qui ont lieu en première ronde. Pour l'occasion, on va être juste deux, c'est moi, Dwayne Ibrahim, qui va être à l'animation et je suis accompagné de mon ami Olivier Presse-Grelot. Olivier, comment vas-tu?
Ça va bien. Il faut dire aussi qu'on a une troisième personne dans le décor, Thomas Lafond, que j'entends en arrière, là, dans ton background. puis je me demande pourquoi il n'a pas son propre ordi, puis il ne participe pas, le tabarouette.
Écoute, Thomas et moi, on doit aller magasiner pour
le bal
qui va avoir lieu demain. Ben, moi, j'accompagne Thomas, je l'aide au style vestimentaire. C'est Thomas qui achète. Bref, c'est la raison pourquoi il n'est pas là. Mais moi, j'avais mon ordi sur moi, donc voilà. C'est pour ça, toujours là pour dépanner. Bref, on va revenir
à tout. Salut à vous, à l'UQAM.
Merci l'UQAM. Une des dernières fois. Pour revenir rapidement sur les games qui ont lieu mercredi soir, je ne me trompe pas. Pour l'occasion, on revient sur les trois matchs. Un dans l'Association de l'Est, qu'on va commencer tout de suite, et deux autres dans l'Association de l'Ouest. On va commencer avec le match numéro 3 qui avait eu lieu hier soir entre les Maple Leafs de Toronto et les Blues de Boston du côté de Toronto. Victoire de 4-2 des Bruins. Une bonne performance en troisième période de Brad Marchand qui inscrit deux buts et une passe, dont le but de la victoire et aussi le but en filet désert pour permettre aux Bruins de l'emporter. Et également aussi, grosse performance de Jeremy Swayman. Oli, qu'est-ce que tu en as pensé en général de ce match? Est-ce que tu as eu l'impression comme moi que ce match s'est terminé avec quelques petits détails de différence
entre les équipes? Oui, vraiment. C'était vraiment un match de détails. Tu fais très bien de le mentionner. Tu as parlé de Brad Marchand. Excellent match aussi. Quel match de bon match de hockey de série, honnêtement. Là. 63 mises en échec pour les Bruins, 74 pour les Leafs. C'était physique. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'est vraiment des gros jeux qui ont fait en sorte qu'il y a eu des buts, qui ont amené vraiment des petits détails, comme tu l'as dit, qui ont penché du côté des Bruins. Et il faut le dire, je pense que les Leafs se sont quand même fait voler par l'arbitrage là, sur le but de Trent Frederick. Premièrement, il y a la séquence dans le fond de la zone où est-ce que McAvoy renverse Matthews alors qu'il n'a pas la rondelle. Honnêtement, je pense que ça aurait dû être une pénalité. Quelques secondes plus tard, tu as Brad Marchand, le classique Brad Marchand, qui va mettre son bâton entre les deux jambes de Tyler Bertuzzi, qui va lui aussi complètement être trébuché par Marchand. Au milieu de la glace, pas de pénalité là non plus. Donc, en 20 secondes, c'est deux pénalités potentielles. Puis après ça, ben, le but de Trent Frederick qui est survenu direct après. Là.
Mais qu'est-ce que j'ai trouvé assez particulier avec Trent Frederick en général? Pas Trent Frederick, mais je veux dire Marchand, c'est que... Excusez-moi, il y a du bruit, mais vas-y, Ali, continue à analyser.
Okay, parfait, oui, je continue. Ben oui, ben en fait, c'est ça. Trent Frederick qui a marqué tout de suite après, donc deux pénalités potentielles du côté de Brad Marchand sur ce jeu-là. Donc, même si, c'est difficile de prendre pour les Leafs étant Montréalais, il faut l'accorder là, qu'il y avait deux pénalités assez claires sur ce jeu-là. Et donc, le but de Trent Frederick n'aurait pas dû être arrivé, selon moi. Et ça a été un point tournant dans le match parce que les Leafs auraient pu vraiment avoir le momentum à partir de ce moment-là s'il n'y avait pas eu le but de Frederick. Mais ça n'a pas été le cas. C'est les Bruins qui ont répliqué, qui ont pris les devants avec DeBrusk ensuite. Et quand Bertuzzi a marqué pour faire 2-2, ben les Bruins ont repris les devants encore avec Brad Marchand qui est allé de tout un but, tout un tir dans la lucarne. Le petit trou là, dans la lucarne de Brad Marchand. Et il a vraiment été excellent, Marchand, dans cette rencontre-là. Il était l'agitateur qu'on connaît, même s'il aurait dû avoir une pénalité sur Bertuzzi. Ça a marché, ça a provoqué un but, ça a sorti un peu momentanément les Leafs de leur match. Donc, très gros match de Brad Marchand qui a marqué en filet désert également. Puis, pour revenir au but de Frederick, même si c'est un but qui n'aurait pas dû avoir lieu à cause qu'on aurait dû appeler des pénalités, ben il faut dire que le gardien Samsonov n'a pas été très bon sur ce tir-là. C'est un tir côté rapproché qu'il aurait dû arrêter, je pense. Mais quand même, il faut dire que oui, les partisans des Leafs ont raison de chialer sur l'arbitrage, je pense.
Ouais, mais par contre, l'affaire que j'ai trouvé assez particulière, c'est que j'ai vraiment l'impression que Brad Marchand a vraiment joué dans la tête des joueurs ouais. des Leafs, surtout Tyler Bertuzzi. Tyler Bertuzzi aussi, il y a une séquence qui m'a un peu tracassé, disons-le. C'était quand les Maple Leafs s'étaient retrouvés avec un avantage numérique en fin de deuxième période et que non seulement il y a eu 2-1 entre Brad Marchand et Charlie Coyle qui a failli permettre aux Bruins de marquer des avantages numériques, mais en plus, de tenter une mise en échec assez dangereuse à l'endroit de Charlie Coyle pour en fait pénaliser son équipe, surtout à 4-4, ce qui a permis aux Bruins d'avoir un avantage numérique en début de troisième période et ça a mené au but de Jake DeBrusk. Ouais. Et aussi, tu sais, oui, c'est vrai que l'arbitrage était un peu. L'arbitrage était un peu douteuse, disons-le.
Sur cette séquence-là, sur le but
en général, dans le match en général aussi, mais quand même, il reste que les Leafs ont eu 5 avantages numériques dans cette rencontre-là, 0-5.
Oui.
Donc ça a vraiment fait mal aux Maple Leafs et aussi également, l'affaire qui fait extrêmement mal aux Leafs, je pense, c'est surtout le fait que tu vois ton capitaine John Tavares qui, honnêtement, ça fait bad dans un duel de capitaine là, où que tu vois Marchand qui s'est levé, qui a marqué 2 buts, une passe en troisième période qui permet à son équipe de gagner quand Tavares, malheureusement, en fin de match, prend une pénalité assez spéciale, là, disons-le, là, où tu vois qu'il se fait retourner son bâton par un joueur ouais. des Bruins, puis que par la suite, fait tomber également, je pense que c'était Charlie Coyle, pas Charlie Coyle, mais Charlie McAvoy. Et à cause de ça, il n'a pas l'air de se retrouver en désavantage numérique en fin de rencontre. Donc, c'était quand même pas un excellent match de la part de John Tavares. Et également aussi, je commence à croire que la blessure de Nylander fait vraiment mal au Leafs. Là.
Tout à fait, la blessure de Nylander qui devrait peut-être revenir dans, je pense pas le prochain match, mais peut-être éventuellement. Il y a Bobby McMahon aussi qui est blessé, qui pourrait réintégrer la formation. J'ai entendu dire autour du match 5 ou 6. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là. McMahon aussi, là, qui peut apporter de la robustesse, de la rapidité dans cet effectif des Leafs. Puis, on attendait Mitch Marner du côté des Leafs. Il a récolté une passe, toute une passe. Premier but du match qui a donné le ton. Donc, au moins, on a vu à plus Marner dans ce match-ci. Mais là, comme tu dis, on ne voit pas Tavares. Nylander est blessé. Matthews, on ne l'a pas bien vu dans ce match-ci. Donc, à date, il a été là un match sur 3, Matthews.
Ouais. Il n'a pas été si mal avec ça, Austin Matthews. J'ai quand même eu des occasions de marquer hier. Malheureusement, il n'a pas réussi à déjouer Jeremy Swayman, mais tu sais, son trio, ça a quand même été très
bien. Il y a eu un poteau, je pense, t'as raison.
C'est ça. Mais même aussi son trio avec Bertuzzi et Max Domi a été de loin le trio le plus dangereux des Maple Leafs hier soir. Donc, franchement, à part le match numéro 1, je reproche rien pour l'instant je vais dire Mitch Marner, mais à Austin Matthews.
Ben,
pour moi, il fait en fait, peut-être qu'il peut être plus spectaculaire, mais pour l'instant, j'ai déjà vu pire en séries éliminatoires de la part d'Austin Matthews.
Ouais, ben en fait, pas nécessairement spectaculaire. Je pense juste qu'il mette ses occasions parce que Matthews, il a 69 buts en saison régulière. C'est bien beau en avoir, mais tu t'attends à ce qu'il les concrétise ses occasions de marquer. Puis oui, c'est vrai, je suis un peu dur avec lui. C'est vrai qu'on l'a vu puis s'est procuré des chances hier. Mais Matthews, comment il va apporter sa marque à un match? C'est pas par ses chances de marquer, c'est par en les mettre dedans. Là. Fait que c'est ça qui manque. Il l'a fait au match numéro 2, voir s'il va être capable de faire au match numéro 4. Mais voilà, ça fait le tour de Leafs et Bruins, je pense bien. Très intéressante série, très hâte de voir la suite.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis moi, je sais pas ce que t'en penses, Ali, mais moi, je pense que cette série-là peut facilement se rendre à la limite. Écoute, c'est soit que ça sera à la limite, ou soit t'as Boston qui, avec quelques petits détails à leur avantage, pourrait remporter cette série-là en 5 ou en 6 matchs, peut-être. Mais pour moi, ça va se rendre à la limite. Je pense que c'est une série qui peut aller d'un côté ou de l'autre pour l'instant. C'est loin d'être terminé.
Je pense que ça va se rendre en 7, moi aussi.
Bon, ben écoute, on va se rendre tout de suite du côté de l'association de l'Est, de l'Ouest, pardon, où il y avait 2 matchs en fin de soirée. Premièrement, on va aller avec celui entre les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas, match numéro 2. Du côté de Dallas, victoire de 3-1 des Golden Knights, notamment avec Jack Eichel qui, honnêtement, a été excellent dans cette rencontre-là des deux côtés de la patinoire. Et surtout, je commence à croire que les Stars de Dallas ont pogné le pire adversaire possible en première ronde.
Bien d'accord. Ben, honnêtement, bien d'accord. Les Stars, qui déçoivent un peu, mais en même temps, ils jouent pas du mauvais hockey, là, honnêtement. Plusieurs personnes ont prédit les Stars. Je sais qu'il n'y a pas toi. Fait que bravo à toi pour ça, parce que les Golden Knights sont en avance. Mais parce que les Stars sont l'équipe probablement la plus profonde. Mais je pense qu'on avait sous-estimé les Golden Knights, moi y compris, parce que on n'avait pas totalement inclus que le retour de Martinez, de Manta, de Pietrangelo, de Stone, qui étaient tous blessés en fin de saison régulière. Bien, tous ces joueurs-là qui reviennent, ça donne tellement plus de punch à cette équipe-là. Et donc, ils font en sorte que les Golden Knights sont une équipe tout aussi profonde que les Stars avec tous ces joueurs-là, peut-être même plus, et qui dépassent le cap salarial aussi. Donc, c'est vraiment chapeau aux Golden Knights qui jouent vraiment du très bon hockey de série. Les Stars ne jouent pas du mauvais, mais c'est juste que les Golden Knights ont l'expérience. Tout le monde qui revient de blessure, donc sont énergisés avec tous ces joueurs-là. Puis Jack Eichel, Jonathan Marchessault, quel hockey il joue présentement. Eichel, tu l'as dit, là, quel match de sa part. Marchessault aussi, c'est un joueur qui marque en saison régulière, en série. Il fait tout Conn Smythe l'année passée. Et ces deux-là s'entendent très bien. Noah Hanifin aussi, qui montre que qui a marqué le but gagnant, qui montre que les acquisitions faites à la date limite par les Golden Knights sont profitables. Donc voilà, Golden Knights chapeau, puis les Stars là, perdent 2-0, ils s'en vont à Vegas pour la suite. Ça va être très difficile pour eux. Mais c'est tout un club de hockey, les Stars de Dallas, donc il ne faut pas les prendre pour battus. Là.
Non, forcément que non, mais en même temps, tu te trouves avec un déficit de 2-0, tu t'en vas du côté de Vegas. Ça risque d'être extrêmement difficile pour les Stars de Dallas, surtout que les Golden Knights, comme tu l'as mentionné, tout le monde est de retour ou presque dans cette équipe-là. Je pense qu'il y a juste Nicolas Haig qui est blessé, mais même là, tu remplaces Haig par un Martinez. Mm-hmm. Finalement, il n'y a pas tant de problèmes du côté de Las Vegas. Et moi, c'est surtout que défensivement, cette équipe-là, il y a une profondeur folle du côté des Golden Knights. Là, avec la question de Hanifin, avec Pietrangelo qui est revenu, chez Theodore, White Cloud, McNabb, Martinez, t'as Haig qui est blessé, mais qui est normalement dans le top 6. C'est une équipe qui est franchement, qui est spectaculaire. Et à l'attaque aussi, ben, tu as les acquisitions de Thomas Hertl et retour de Mark Stone, également Tony Manta et Jack Eichel, qui pour moi a été fantastique hier, mais fantastique.
Ouais.
Honnêtement, c'est un excellent match du jeu côté de la patinoire, un gars qui pouvait tout faire. Et également aussi, ben, le gars il est quand même très chanceux d'avoir un joueur comme Jonathan Marchessault qui est un excellent joueur de séries éliminatoires. Donc, non, pour vrai, Vegas est une équipe dangereuse. Moi, comme tu avais mentionné un peu plus tôt, j'avais pris Las Vegas pour remporter ces tirs-là en 6 matchs parce que je me disais que tout le monde allait revenir en santé et que pour moi, Vegas en santé est une équipe plus dangereuse que les Stars. Ou que les Stars, bon, tu as Oettinger qui a mieux joué au deuxième match, mais qui, des fois, il n'est pas à 100% de sa forme. Et Dallas qui marque seulement un but dans le deuxième match, à un moment donné, Tu peux des fois reprocher au gardien de but de ne pas faire des erreurs au bon moment, mais si tu marques juste un but, c'est normal que tu perds.
Ouais. Ah, tout à fait. Bien d'accord avec toi. Je pense pas qu'Ottinger a grand-chose à se reprocher, mais c'est vrai que côté gardien, à date, c'est Logan Thompson qui a le dessus. Puis pour Dallas, il y a des joueurs qui doivent en faire plus au niveau de l'attaque. Tu sais, Dallas a été une équipe qui s'est très bien tirée d'affaire offensivement. Dans la saison régulière, pardon. Et là, ben, des gars comme Pavelski, je pense pas qu'il y a encore de points dans cette série. Puis lui, on le sait, c'est tout un joueur de série habituellement. Puis les vétérans, en fait, du côté des Stars, Jamie Benn, Tyler Seguin, Matt Duchesne doivent en faire plus. On a Wyatt Johnson qui a plus de 30 buts cette saison. Je l'ai pas beaucoup vu jusqu'à maintenant dans cette série. Même Rupe Hintz, j'ai pas vu bien de choses de lui jusqu'à maintenant. Donc, c'est des gars qui, clairement, du côté des Stars, doivent en donner plus offensivement. Oui, c'est une équipe profonde, mais il faut de la production aussi d'un peu tout le monde. Et on n'a pas ça à date du côté des Stars. Mais tu l'as dit, on fait face à une défense des Knights qui est rodée par les séries de l'an dernier et qui est excellente.
Ouais, ben écoute, honnêtement, ça risque. En fait, cette équipe-là de Vegas me fait vraiment peur. Je pense que cette équipe-là peut encore une fois se rendre jusqu'au bout. Là. On verra ce qui se passe. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de hockey dans cette série-là. Et j'espère que cette série-là va se rendre le plus loin possible parce qu'on parle quand même de deux équipes avec beaucoup de talent. Donc,
je serais vraiment déçu. Deux équipes qui sont les plus profondes dans l'Ouest, en fait.
Exact, exactement. Donc, je serais vraiment déçu que cette série-là se termine tôt, là, parce que la manière que c'est parti, c'était comme... Peut-être que cette série-là peut vraiment être à l'avantage des Golden Knights, mais en tout cas, on verra pour la suite des choses, mais... Moi, honnêtement, on ne sait jamais Dallas. Hein. Peut-être que Dallas...
On ne sait jamais. Non, Dallas, c'est une très bonne équipe. On ne sait jamais. Ah, ouais.
Voilà. Donc, le troisième match qui va avoir lieu, je ne me trompe pas. Samedi soir du côté de Vegas. Donc, ça va être intéressant d'avoir la suite des choses pour cette série-là. Maintenant, allons du côté du Canada, où il y avait le deuxième match dans la série entre les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles du côté d'Edmonton. Bon, une série qu'on connaît très bien, puisque ça fait 3 ans que ces deux équipes-là s'affrontent en première ronde. Et on a eu droit quand même à un match assez spectaculaire dans l'ensemble. Victoire de 5-4 des Kings de Los Angeles avec le bon vieux Andy Kopitar qui marque en prolongation pour égaler cette série-là 1-1. On connaît la force de frappe des Oilers d'Edmonton, mais... là, ça commence à être un peu inquiétant de voir les Oilers accorder autant de buts puis commettre autant d'erreurs qui évitables, en fait.
Oui. Ben vraiment, là, tu l'as dit, on sait qu'on n'a pas à s'inquiéter pour l'attaque du côté des Oilers. C'est déjà 11 buts de marqués dans cette série-là. Mais faut donner crédit aux Kings aussi, je pense, parce que c'est pas l'équipe avec la meilleure... attaque dans ces séries-là, vraiment pas. Et les joueurs offensifs se sont levés du côté des Kings dans ce match-là. On parlait là, que des Adrian Kempe, des Kevin Fiala devaient là, être des moteurs offensifs là, pour si les Kings voulaient avoir une chance contre les Oilers. Puis dans ce match numéro 2, ils ont été 2 buts de Kempe, 2 solides buts qui ont donné vraiment le ton au match puis qui ont donné un gros momentum aux Kings. Drew Doughty même a marqué le gros signe de... Bon, c'était vraiment pas un but... un beau but, il faut le dire. Là. C'était beaucoup de chance sur ce but-là. Mais ça reste que il est clutch au bon moment, Drew Doughty. Et Kopitar aussi, en prolongation, il faut le dire, l'âme de cette équipe-là qui va marquer le but décisif. Mais voilà, Kempe, Fiala, qui ont été excellents, là, qui se sont levés au bon moment. C'est ces gars-là qui doivent se lever au gros moment, comme je l'ai dit, ils l'ont fait. Puis du côté des Oilers, vraiment un gros bravo à Dylan Holloway qui a permis aux Oilers de rester dans ce match-là avec 2 buts. Holloway, qu'on prometteur, qu'on entend parler dans les dernières années du côté des Oilers, ben là, qui apporte son apport à série, c'est bien pour lui. Malheureusement, c'est dans une défaite. Et aussi, grosse performance quand même de Cam Talbot du côté des Kings. Oui, il a accordé 4 buts sur 31 tirs, mais il a fait des gros arrêts au gros moment. Là, j'ai en tête, entre autres, en avantage numérique sur Draisaitl avec une passe extraordinaire de Connor McDavid vers l'arrière pour Draisaitl alors qu'il s'était infiltré dans le centre de la glace. Et gros arrêt de la mitaine de Talbot là-dessus. Donc, Talbot a gardé son équipe dans le match et les gros canons des Kings ont marqué. Puis, ça va être comme ça qu'on va battre les Oilers du côté des Kings. Et je pense que je vois pas d'autre façon. Là.
Ouais. Mais écoute, par contre, il y a une chose qui est extrêmement inquiétante, encore une fois, du côté des Oilers Edmonton, c'est la situation des gardiens de but. T'as un Stuart Skinner qui, en 2 matchs, littéralement un piètre taux d'efficacité de 857. Et quand même, on parle d'un gars qui, l'année passée, en 12 matchs, s'est fait chasser du match 4 fois. Là. Donc, écoute, es-tu inquiet de Stuart Skinner ou tu penses qu'il peut rebondir?
Ben écoute, c'est sûr que du côté des Oilers, on va être inquiet des gardiens. C'est sûr et certain. Ça, depuis quoi, 3, 4, 5 ans, c'est ça l'inquiétude du côté des Oilers. C'est les gardiens. Donc, clairement, que Stuart Skinner m'inquiète. Jamais vraiment il n'a été constant sur une longue période ou en séries éliminatoires. Donc, clairement que je suis inquiet de Skinner. Sur les buts d'hier, il y a des buts qu'il ne peut pas se reprocher. Là. Je pense, entre autres, au but de Kempe, là, coordination meilleure, très, très bonne, qui va loger ça là, au vol dans la partie supérieure. Ça, il ne peut rien faire sur ce but-là. Mais des buts comme le but de Kevin Fiala, pas vraiment de circulation devant lui, un tir sur la glace. Il s'est tout simplement fait surprendre, ne s'est pas baissé assez rapidement. Mais ça, c'est des buts que faut que tu fasses cet arrêt-là pour ton équipe. C'est ce genre d'arrêt que Skinner ne fait pas toujours et qui fait très mal aux Oilers parce que, écoutez, le but de Fiala, c'est un but qui fait 4-3, c'est un but qui remet le momentum du côté des Kings après que les Oilers aient remonté de 3-0 à 3-3. Là. Donc, ouais, c'était, je pense que c'était ça, 3-0 à 3-3. Non, c'était de 2-1 à bref, 2-0. Il perdait 2-0 et finalement, c'était 3-3. Et là, le but de Fiala a fait 4-3, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui remet le momentum du côté des Kings, comme j'ai dit. Et c'est des arrêts dont les Oilers ont besoin parce que ça, c'est un point tournant dans le match, ce but-là. Et si Skeller avait fait l'arrêt, probablement que les Oilers se seraient sauvés avec la victoire. Là. Donc, ouais, c'est sûr que c'est un gros enjeu côté Oilers, mais tu ne peux pas me permettre de mettre Carlton Pickard, je pense. Là. Donc, Skinner est la solution. Puis, c'est tu continues ou tu meurs avec Stewart?
Ouais, ben écoute, je pense qu'ils n'ont pas le choix de faire ça, les Oilers d'Edmonton, parce que même dans les autres années, dans les années précédentes, que ce soit un Mike Smith en 2022 ou un.
Koskinen,
ou même l'année passée à Jack Campbell.
Ouais.
Ah, c'est pas des valeurs sûres. Il n'y a jamais en fait de valeurs sûres dans les buts des Oilers de Edmonton depuis très, très longtemps.
Il y a même un gardien qui était une valeur sûre côté Oilers, puis il n'y en a pas qui me vient à l'esprit. Là.
Non, c'est ça. Ben, moi, il y en a un qui me vient à l'esprit, mais il était une valeur sûre ailleurs, qui était Devin Dubnyk, qui était quand même relativement bon du côté du Wild du Minnesota. Donc.
Il était très bon du côté du Wild, mais qui a été bon aux Oilers sur une grosse période de temps constant, il n'y en a pas qui vient à l'esprit.
Non, c'est ça. Donc, malheureusement, c'est ça. Mais écoute, par contre, la bonne nouvelle pour les Oilers, c'est que la série est seulement 1-1, puis que on le voit que ça va relativement bien avec l'attaque des Oilers. Donc, Carl Talbot fait les arrêts, mais quand même, les Kings accordent beaucoup de buts. Donc, peut-être que
c'est inévitable, j'ai l'impression.
C'est ça. Peut-être que dans une série offensive, les Oilers peuvent s'en sortir. Mais par contre, si les Oilers décident de jouer jeu défensif, c'est pas avec la défense qu'ils ont qui peuvent y arriver. Et encore moins le gardien de but. Malheureusement, tu es encore une fois un match extrêmement difficile de Darnell Nurse hier. Il n'a pas été. Il n'a pas encore joué son meilleur match. Golisici aussi. Du côté de Pittsburgh, je ne l'ai pas vraiment détesté parce que je trouvais que Mike Sullivan savait bien utiliser. Puis que quand tu le limites à son temps de jeu, puis que tu le mets sur le troisième paire, il peut bien s'en sortir. Mais là, même hier, tu Léolus de jumelle avec Evan Bouchard. Puis Evan Bouchard n'est pas le meilleur défenseur dans sa zone. Ça laisse des petits trous du côté des Oilers. Donc, ça va être intéressant de voir la suite des choses. Mais
c'est pas Ecombe qui est avec Bouchard?
Mais il y a eu un but des Oilers qu'il y avait Cody Ceci et Bouchard sur la patinoire. Je pense que c'est le premier but du match. Mais bref, à moins que c'était juste sur un changement là, ou que c'était assez compliqué. Mais bref, anyway. Ah oui, je pense que c'était sur un changement. T'as raison. C'était Ecombe qui jouait avec Bouchard, mais que sur le premier but, c'était un mauvais champion. Anyway, ça va être intéressant de voir la suite des choses de cette série-là. Cette série-là qui se transporte du côté du Crypto.com à Los Angeles. Ça va être, une belle série aussi. Peut-être une série qui peut encore se rendre à la limite vu comment les deux équipes jouent. Donc, non. C'est franchement.
Je pense que les Oilers vont s'en sortir là, avec leur force offensive. Là, mais les Kings, c'est une bonne équipe de série quand même qui sont capables de réagir. On l'a vu dans le match numéro 2.
Oui, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, par contre, pour les Oilers, c'est que s'ils battent les Kings, ils ont quand même une route plus facile que prévu. Les Kings sont là. Pas les Kings, pardon, mais autant les Kings aussi, si ils réussissent à se qualifier. Là, que les Kings ou les Oilers ne se retrouvent pas à jouer contre les Golden Knights qui se retrouvent par chance du côté de la centrale, vu qu'ils ont terminé 8e dans la conférence. 8e ou 7e? Parce qu'ils ont terminé dans les wildcards. Donc, c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble pour les Oilers ou les Kings. Mais moi, je pense que cette série-là, comme un peu la série Toronto-Boston, peut se rendre à la limite. Là, ça a été le cas il y a 2 ans. L'année passée, c'était un match, mais c'était quand même ultra serré. Donc, c'est une série qui peut se rendre à la limite.
C'est possible.
Très possible. Sur ce, M. Prince-Grolo, ça a été un plaisir. Désolé de la qualité du son, je suis à l'UQAM. Donc,
mais un grand plaisir, moi aussi, Edou.
Puis, au nom de toute l'équipe, je suis Doual Ibrahim et on se voit pas plus tard que demain pour revenir sur les matchs qui vont avoir lieu ce jeudi. Et, il y a plein de rencontres en première ronde. Donc, on est 100% satisfait avec ça. Donc, au nom de toute l'équipe, je suis Doual Ibrahim et on se voit pas plus tard que demain pour un autre épisode de première ronde. Salut tout le monde!